Je vais vous souhaiter la bienvenue à tous. Donc Michel Favré, bonjour, bienvenue chez vous. Hein.
Bonjour Joël.
Voilà, alors on le disait, on va un petit peu changer le protocole aujourd'hui. On retrouvera la chronique tout à l'heure, numéro 91. Là, je vais vous redonner la parole parce qu'on va être en lien à l'actualité, juste le temps de faire le tour de table des invités. Christine, bonjour, bienvenue à Eau de Radio.
Bonjour à vous tous.
Voilà, alors je disais en préambule, vous êtes secrétaire de la SAB, Société Astronomique de Bordeaux.
Et c'est tout à fait ça.
Voilà, et on est ravis. Puis vous avez un joli prénom, Joël Vallée, Astronomie Gironde 33. Bonjour, bienvenue. Et vous êtes également, je ne sais pas, le gérant, le patron, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit.
Gérant associé, donc avec un collaborateur, Monsieur Laurent Vidoni.
Voilà, j'avais peur de commettre un impair, mais ça sert. Voilà, le direct, la boutique, donc Espace Optique Astronomie.
Bien sûr, à la barrière de Pessac, 230 rue de Pessac, donc à Bordeaux, depuis déjà bientôt plus de 30 ans.
Bon, et tant qu'il y a toujours cette passion autour de l'astronomie, voilà, on vous souhaite bien sûr encore de belles activités sur cet aspect-là.
Hein. Je vous dirais que c'est un plaisir de venir tous les matins donc à ce magasin, à ce lieu de travail, pour de très très belles rencontres.
C'est un métier passion. En tout cas, merci également d'être avec nous. Alors Michel, justement, qu'on a un petit peu changé le protocole. Alors sur l'actualité, fête de la science du 7 au 17 octobre et jour de la nuit. Alors vous devez l'aborder sur la chronique. Donc du coup, je ne sais pas si vous voulez en dire quelques mots pour lancer en introduction.
Avant de passer la parole à nos invités, je voudrais juste reparler de ces deux manifestations nationales. La fête de la science a été créée en 1991 par Hubert Curien, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. En 2022, ce sera donc la 31e édition. Et comme chaque année, l'occasion de multiples animations partout en France, plus de 6000 recensées sur le site de la fête de la science, pendant la grosse semaine allant du vendredi 7 au lundi 17 octobre. Alors ce n'est pas spécifique de l'astronomie, mais de nombreux observatoires ou clubs d'astronomie y participent. D'ailleurs, on dit souvent que l'astronomie est la mère de toutes les sciences. Le jour de la nuit, lui, a été créé en 2009 par un collectif d'associations de protection de l'environnement. On en sera donc cette année à la 13e édition, hein, celle de 2020 ayant été annulée en raison de la crise Covid. Pilotée par l'association Agir pour l'environnement, en partenariat avec d'autres structures, et notamment pour nous les astronomes, l'AFA, l'Association française d'astronomie, à laquelle adhèrent la plupart des clubs d'astronomie, et l'ANPCEN, Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, dont je fais partie, comme de nombreux astronomes amateurs. Sur une seule nuit, donc en principe c'est le samedi 15 octobre, l'objectif est d'alerter le public sur le problème de la pollution lumineuse et ses conséquences, notamment en demandant l'extinction des éclairages dans les communes participantes pour faire redécouvrir le ciel étoilé. Alors, je n'ai pas le temps de développer plus cette question de la pollution lumineuse, à laquelle j'avais consacré la chronique de septembre 2021, qu'on peut donc réécouter sur notre site, hein, www.constellationsetgalaxies.org, dans la partie Astronomie Chronique O2 Radio. Juste un petit coup de gueule en passant. Alors que depuis des années, pour ne pas dire des décennies, nous prêchions dans le vide pour demander la réduction des éclairages, l'utilisation de techniques plus efficaces qui n'éclairent pas le ciel comme les stupides lampadaires boules, ou l'extinction des éclairages inutiles, ce sujet est devenu subitement à la mode avec la crise de l'énergie et l'explosion du prix de l'électricité. Et on assiste maintenant à un véritable concours Lépine des bonnes idées de nos dirigeants, comme l'extinction des enseignes commerciales, des parkings vides ou des immeubles de bureaux. Je voudrais donc juste rappeler que la plupart de ces mesures de bon sens ont fait l'objet de la loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, car faisant suite au débat du Grenelle de l'environnement organisé sous la présidence Sarkozy, qui introduisait une réglementation sur les éclairages, complétée par le décret du 12 juillet 2011. Donc au lieu de vouloir réinventer l'eau tiède, nos élus devraient plutôt se mobiliser pour faire appliquer strictement la réglementation existante depuis plus de 10 ans, pour laquelle les préfets ne font pas montre d'un zèle excessif. Il n'est qu'à sortir au milieu de la nuit pour constater les innombrables infractions que constituent les enseignes, parkings, bureaux, usines et administrations, restant illégalement allumées en permanence, constituant un énorme gâchis énergétique et produisant d'importantes nuisances pour la faune, la flore, la santé humaine et, pour ce qui concerne les astronomes, la vision du ciel étoilé, qui constitue pourtant depuis des millénaires un élément déterminant du patrimoine culturel de l'humanité, toute civilisation confondue.
Voilà, c'était une belle introduction. Alors, après vous intervenez, bien sûr, Michel. Là, je posais quelques questions sur mon rôle, bien sûr, d'animateur. Juste préciser, hein, je pense pas qu'on l'a précisé, mais il me semble pas que Philippe Gilabert, président de Vega de la Lyre, qui était invité sur le plateau, voilà, il a eu un empêchement de dernière minute.
Il a eu un
minute.
Empêchement, mais j'ai trouvé les informations voilà, sur Internet et je dirais ce
voilà, tout à fait, mais c'était bien de le préciser. Alors, regardez ce qui peut être bien dans un premier tour, si vous voulez bien, Christine et Joël et puis Michel interviendra, c'est en quelques mots présenter vos structures respectives. Hein. Christine, donc la Société Astronomique de Bordeaux, en quelques mots, hein, alors, vous développez si vous voulez.
Je vais essayer d'être bref. La Société d'Astronomie de Bordeaux, la SAB, hein, c'est l'acronyme, c'est une association loi 1901 qui a été créée.
Regardez Christine, rapprochez-vous. Voilà, très bien, du micro, merci.
Par Henri Memery, qui était un savant spécialiste de la physique solaire, bordelais et connu pour ses importantes communications à la SAF, la Société Astronomique de France. Et à l'origine, sa société, c'était une société savante à laquelle prenaient part donc des passionnés ou des scientifiques qui menaient eux-mêmes leurs propres recherches et qui communiquaient donc au reste de la communauté scientifique les résultats de ce qu'ils avaient trouvé. Bon, depuis, la SAP, ça a évolué au cours du temps et elle s'est peu à peu adaptée. Et maintenant, là, les recherches sont principalement effectuées dans des observatoires ou dans des centres de recherche beaucoup mieux équipés. Alors, les activités de la SAM actuellement se concentrent sur quelques axes. Le principe, le cœur de son activité, c'est de proposer des cycles de conférences en moyenne tous les 15 jours, hors vacances scolaires, soit à peu près une quinzaine de conférences par an. Elles sont présentées en général par des astronomes professionnels des centres de recherche bordelais, généralement bordelais, l'OASU, le LAB, le LP2I, enfin tous ces acronymes qui sont des acronymes de laboratoires de pointe en astrophysique et en astronomie. Il y a aussi des interventions d'astronomes amateurs de la SAB et parfois aussi des intervenants extérieurs ayant travaillé ou travaillant dans le milieu de l'aérospatiale, de la géologie, de l'océanographie. L'entrée pour assister à ces conférences est libre, gratuite, sans inscription. Et ces conférences ont lieu dans nos locaux qui se situent 1 place Bardineau à Bordeaux, derrière le jardin public. La programmation peut se trouver donc sur notre site qui est www.astrosurf.com/sab33. À côté du cycle des conférences, la SAB participe à de quelques grandes manifestations depuis plusieurs années. Le Festival du Soleil, On's Moon Again, la Nuit des Étoiles, et puis pour la première fois à la Fête de la Science. Il y a peu d'observations du ciel, en revanche, qui sont pratiquées par la SAB. Contrairement à nos amis d'AG33, d'Abera, de JAL Astronomie, il y a Vega de la Lyre, enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'associations, de passionnés d'astronomie, qui sont surtout axés donc sur les observations, qui sont mieux équipés que nous, qui bénéficient de sites d'observation hors de Bordeaux, dont le ciel est quand même moins pollué, que ce soit au niveau atmosphérique et lumineuse, justement comme Michel en a parlé tout à l'heure, et dont c'est la principale activité pour ces associations. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour.
Très bien, si vous pouvez venir, regardez, on aurait pu faire une interview croisée, ce que vous allez proposer sur les événements à suivre. Voilà, comme ça, après, Joël nous parlera pour Astronomie Géant 33, et puis Michel va compléter. Donc là, c'était bien d'avoir comme ça une première connaissance de l'association, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer sur les événements à suivre? Vous serez actif avec l'association sur cette fête de la science? Alors, ou jour de la nuit?
C'est la première fois que la SAP participe à la Fête de la Science. Bon, moi, en tant que personne déjà intéressée par les sciences, je me suis intéressée aux précédentes éditions. Et là, la SAP s'est investie. Et il se trouve que la thématique nationale pour l'édition 2022, c'est le changement climatique, atténuation et adaptation. Donc, on s'est dit que l'astronomie pouvait tout à fait contribuer, enfin, faisait partie donc de cette problématique. Nous proposons donc dimanche 16 octobre de 14h à 18h dans nos locaux une manifestation qu'on a intitulée Astronomie et climat, pour faire appréhender au public comment l'astronomie est au service de la connaissance et la compréhension du climat. Alors, c'est un projet qui est peu ambitieux, parce que c'est la première fois que nous y participons.
S'il est ambitieux, peut-être pas à la hauteur de vos espérances, mais c'est une première, et puis vous êtes déjà très très actif avec l'association.
On essaie.
Non, c'est important de le dire.
Bon, alors, finalement, pendant cet après-midi, on propose une exposition qui développe plusieurs thèmes. Quelle est la différence entre climat et la météo? Quels sont les principaux facteurs du climat, qu'ils soient astronomiques ou météorologiques, atmosphériques? On parlera aussi de la surveillance satellitaire qui est dédiée à l'étude du climat. Les ELT, qui sont les événements lumineux transitoires, qui sont des phénomènes lumineux, atmosphériques, peu connus et assez spectaculaires. Et ensuite, il y aura aussi un volet consacré au climat sur les autres planètes et ailleurs dans le système solaire. Ça devrait bien plaire au public, normalement. Il y aura aussi de courtes vidéos sur ces thèmes qui seront projetées en boucle. Et un point fort entre 15h et 16h, où on projettera deux vidéos avec l'accord explicite de David Louapré, qui se prête au jeu. Alors lui, il nous a juste donné l'autorisation de projeter ces vidéos. Et ces vidéos, l'une expliquera le fonctionnement de l'effet de serre sur Terre, et qui peut s'appliquer aussi sur d'autres planètes. Et l'autre vidéo expliquera les cycles de Milankovitch, qui ont été source justement de la manière dont certains climato-sceptiques se sont appuyés dessus pour pouvoir justifier le changement climatique dont nous sommes témoins à l'heure actuelle. Et ensuite, ces projections seront suivies d'un échange sous forme de débat pour pouvoir mettre en lumière l'influence des paramètres astronomiques sur le climat à des échelles de temps très très longs, qu'il faut distinguer avec l'impact des facteurs anthropiques sur le changement climatique actuel qui se produit à des échelles de temps très très court. Alors voilà, je pense qu'on essaiera d'être à la hauteur de ce que l'on veut faire. C'est une manifestation ouverte au public, qui est gratuite, que le public soit novice ou pas, et de tout âge. Et il y aura évidemment la présence d'animateurs et d'adhérents de la SAP pour essayer de répondre aux questions et accompagner le public.
Voilà, puis on partagera bien sûr sur les réseaux sociaux. Voilà, comme il faut que je gère l'heure. Oui, on va finir, Michel, je vais vous redonner la main, mais comme il faut qu'on soit bon sur le timing, sur le 15 octobre.
Le 16 octobre. C'est dimanche 16 octobre.
Bon, moi j'ai samedi 15 octobre, mais c'est pas grave.
C'est pour le jour de la nuit.
Le jour de la nuit, le 15 octobre.
Justement, non, mais c'est tout à fait. J'ai 15 octobre, jour de la nuit. Est-ce que vous proposez quelque chose?
Non, cette année, on ne propose
d'accord.
rien.
D'accord, voilà. Très bien. Joël, comme sans Michel, vous terminerez, sauf si vous voulez compléter.
Oui, non, c'était juste pour les auditeurs, les cycles. D'ailleurs, je ne connais pas le nom, les cycles de...
Les cycles de Milankovitch.
Voilà, c'était juste, c'est l'aspect, disons, de l'influence des mouvements de la Terre autour du Soleil et de leurs variations sur le climat. Donc c'est l'aspect astronomique du changement climatique à long terme.
Voilà. Et qui permet d'expliquer les grandes variations, les âges glaciaires et interglaciaires au niveau du quaternaire.
Très bien, c'est important de compléter. Donc Joël, un petit peu la même question. On fait un petit coucou à Corinne.
Très heureux en plus de
l'association Astronomie Géant 33. Alors, c'est bien, même si vous êtes déjà intervenu ou Corinne, de toujours rappeler dans l'association dans laquelle on évolue, dans les grandes lignes, quels sont les objectifs, missions, etc.
En tout cas, c'est un plaisir de la représenter aujourd'hui. Hein, donc j'en suis très fier. Quand elle m'appelle, je ne peux pas lui refuser, ni de refuser ça à Michel pour son
et merci pour nous, du
très
coup.
Belle émission. Que du bonheur. Alors c'est vrai que Corinne donc, est un club, enfin AG33.
Oui,
donc,
pas Corinne.
Oui, AG33 est un club, je dirais, très très dynamique, hein, qui s'investit
Corinne
énormément.
Est dynamique aussi, j'essaie
oui,
de rattraper
oui,
sur la
petite. Elle a de l'énergie.
Mais pardon.
C'est un fait.
Allez, AG33.
Et c'est vrai que donc AG33, le samedi 8 octobre, fête de la science à Saint-Médard-des-Rands. Donc voilà 8 ans que la fête de la science donc, est le rendez-vous des curieux et des passionnés. Cette manifestation gratuite et conviviale a pour but de susciter la rencontre entre le public, les amateurs ou les professionnels. Un programme renouvelé avec des expériences, des expositions, des conférences, des ateliers, des randonnées pour découvrir le monde des sciences d'une manière ludique. Le samedi 15 octobre, le jour de la nuit à Socat, précommunal, animation pour la sensibilisation du respect de la nuit noire. Entrée gratuite pour tout public, programme observation des planètes et de nombreux objets célestes, amas ouverts, amas globulaires, nébuleuses, galaxies, grâce à une pléiade d'instruments d'optique tels que jumelles, lunettes et télescopes, des animateurs d'AG33 très motivés seront donc sur le terrain présents. Un atelier système solaire sur 12 mètres plus une maquette fixe et mobile. Un atelier tenu par un animateur de la réserve naturelle géologique vous fera découvrir la faune nocturne. Astrobio, livre des sciences et de l'astronomie. Et bien sûr, la buvette vous accueillera avec l'astro café et l'astro chocolat chaud. La commune de Socade éteindra son éclairage public dans le centre-bourg afin de participer et de soutenir notre action de promotion de la nuit noire. En cas de mauvais temps, un repli sous tente est prévu avec présentation des instruments, diaporama commenté par des amateurs éclairés. Et s'il m'est permis, n'oubliez pas une date très importante, samedi 5 novembre, donc à 17h45 à la Ruche de Socade, sur le thème des Kilonovea, collision entre étoiles à neutrons, par David Schmidt, astrophysicien au CNRS, Centre d'études nucléaires de Bordeaux-Gradignan. Voilà, merci.
Très bien, mais regardez, on va compléter avec Michel et on fera un dernier tour voilà, pour compléter site internet, etc., qu'on partagera hein, sur nos réseaux sociaux. Bah, c'est bien d'en parler, bien sûr, mais c'est bien d'avoir ces relais. Et pour AG33, un site magnifique aussi, internet, hein, richement détaillé. Donc on fera un dernier tour de table pour justement amener ces dernières informations. Alors Michel, on le disait, Philippe ne pouvait pas être, et c'est pas un reproche, bien évidemment, le président de Vega de la Lyre aujourd'hui. Nos amis de verre.
Oui, avant de parler de Vega, je vais juste revenir un tout petit peu sur AG33, puisque Joël Vallée a surtout parlé des animations pour la fête de la science et le jour de la nuit. Et on reçoit assez souvent Corinne ici, donc ça a été dit plusieurs fois, mais les auditeurs ne sont pas forcément toujours les mêmes. Donc AG33, Astronomie Gironde 33, c'est un club d'astronomes amateurs qui est, comme le disait Christine, basé sur l'observation, comme beaucoup de clubs. Et l'observation se fait en général à Socade pour éviter les pollutions lumineuses de la ville de Bordeaux, de l'agglomération bordelaise qui est au nord. Du coup, c'est plus intéressant parce que souvent, on regarde plutôt le sud. Donc souvent, il faut aller voir sur le site, mais souvent, le samedi soir, il y a une observation à Socade. En général, c'est au mémorial de la ferme de Richemont, sauf pour certaines opérations publiques, comme là, le jour de la nuit qui se passe en plein centre-bourg. Mais c'est un accueil pratiquement à chaque fois du public. Des astronomes amateurs qui peuvent venir avec leurs instruments, puisque le principe de l'association, c'est que ne sont membres de l'association que les personnes qui s'impliquent beaucoup plus dans l'animation, avec plus de connaissances, disons, pour aider les autres, y compris à utiliser leurs propres instruments. Donc AG33, c'est vraiment un des clubs les plus actifs de la région, et très ouvert aussi sur la coopération interclub. Pratiquement une fois par an, il y a un repas interclub qui est organisé par AG33. Et pour excuser l'absence de Corinne, qui ne peut pas être là aujourd'hui, elle était encore dans l'Aveyron, une petite ville, un tout petit village qui s'appelle Ambérac, parce qu'elle s'occupe aussi des RACSO, où j'étais la semaine dernière, les rencontres des astronomes amateurs du Grand Sud-Ouest, donc qui réunit des astronomes de toute la région, très largement. Sur 3 jours, et elle n'a pas fini de tout ranger, et elle fait le trajet retour aujourd'hui. C'est pour montrer à quel point ce club est actif, non seulement vis-à-vis du public, mais aussi des autres clubs et des autres astronomes amateurs. Alors maintenant, pour venir à Vega de la Lyre, donc c'est une association que je connais un peu moins bien. Je sais qu'elle est du côté de Vert, et surtout qu'elle a un observatoire, hein, contrairement à G33 qui fait de l'astronomie, je pourrais dire, itinérante, quoi. Donc, pour le jour de la nuit, les informations qu'on a pu trouver, c'est pour le 22 octobre. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas le 15 qui est la date officielle. Sans doute, il y a un problème de calendrier pour eux. Et donc, c'est le 22 octobre qu'ils feront une porte ouverte à l'observatoire de Vert. Bien entendu, c'est gratuit pour le public. Il y aura une observation du ciel depuis l'instrument qui est sous la coupole et aussi d'autres télescopes qui seront sur les prés. Il y aura, puisque c'est le thème du jour de la nuit, une sensibilisation au problème de la pollution lumineuse. Et là aussi, il y aura une petite buvette sur place pour les participants.
Voilà, et puis sur les décalages sur les dates, c'est vrai que chacun aussi peut être, ça peut être inhérent aussi aux activités dans une ville, mais c'est important d'avoir les bonnes dates. Alors là, comme il va nous rester juste quelques petites minutes là, donc Christine, si on veut suivre toute l'actualité de la SAB, la Société Astronomique de Bordeaux, je présume site internet, réseaux sociaux.
Nous avons un site internet, alors pas de réseaux sociaux, bon. Un site internet.
Mais le site, c'est déjà beaucoup.
C'est déjà bien, il est bien dense, il faut fouiller, il y a beaucoup
bon.
De pages.
Enfin, et puis il y a les contacts éventuellement, si on veut mieux connaître.
Il y a des contacts, exactement. Bon. Alors c'est astrosurf.com/sab33. Nous sommes hébergés par le site d'AstroSurf.
Très bien, je ne sais pas si vous
voulez... Tout se trouve là, hein, de toute façon.
Oui, non, mais un site bien détaillé, je veux dire, c'est bon. Après, les réseaux sociaux, il faut avoir le temps de pouvoir les réactivités.
Et bien joli depuis que Marc, notre ancien président, s'en était occupé.
Bon. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot avant qu'il nous reste 3-4 minutes.
Je vous remercie de votre accueil, surtout. Et puis, j'espère que le public aura envie de voir un petit peu ce que c'est que l'astronomie. Aussi bien, vous voyez, voir les étoiles à travers les instruments, à travers donc les différentes manifestations. Et venez voir un petit peu écouter nos conférences qui sont de tout niveau, hein, de toute façon. La prochaine conférence concernera la radioastronomie. Elle a lieu le 19 octobre.
Très bien, c'est pour ça qu'on va partager toutes ces infos. Hein, parce que là, même si on se focalise sur la fête de la science et jour de la nuit, il y a de l'activité tout le long de l'année. Donc Joël, également, si on veut avoir un petit peu plus d'infos sur Astronomie Géante 33, par exemple un auditeur qui dit « Tiens, j'ai entendu des dates, je voudrais en savoir plus. » Alors il y a déjà le site internet.
Elle a un très très beau site internet, je dirais. Et puis c'est vrai que bon, on ne peut pas lui reprocher à Corinne. Dans le domaine de la communication, je peux vous dire que ça soit flyer, que ça soit mail... Elle est très réactive dans tous les domaines, quelle qu'elle soit. Mais c'est vrai que bon, c'est un très bon club. Et je dirais la région Aquitaine, c'est vrai que bon, dans le domaine de l'astronomie, c'est un plaisir de travailler avec tous ses membres.
Voilà, des passionnés, hein. Ça c'est toujours plaisant. Peut-être juste... oui, mais Michel, ne vous inquiétez pas, je vais vous redonner. Là, on fait le tour de table, il nous reste 2 minutes. Joël, rappelez également l'espace optique astronomique.
Astronomie, espace
optique. Qui est bien connu,
hein.
Voilà. Joël et tous les clubs d'astronomie vous connaissent. Donc, c'est pas faire de la pub déguisée, parce que vous êtes un passionné. Parce que là, je ne vais pas avoir le temps de tout dire, mais c'est important d'avoir du bon matériel. Hein. Méfiez-vous de certains matériels qui peuvent être plus nocifs qu'autre chose. Donc, rappelez nous l'adresse d'Espace Optique Astronomie, s'il vous plaît.
Écoutez, vous êtes bienvenue, donc Astronomie Espace Optique, 230 rue de Pessac à Bordeaux, et nous sommes là, j'ai plus de 30 ans. Voilà, un plaisir de vous accueillir. Du lundi au samedi, 9h-19h, sans interruption.
Voilà, c'est bien amené. En tout cas, merci tous les deux. Michel, je vais vous donner sur cette partie le mot de la fin. On aura la chronique culinaire, vous reviendrez pour la chronique astro. Donc là, une minute, si vous voulez compléter ou conclure, avoir à nouveau le micro tout à l'heure.
C'était pour parler de la boutique, puisqu'on n'en parlait pas jusqu'à maintenant. Et c'est pour dire aux personnes qui s'intéressent à l'astronomie, qui voudraient investir dans un instrument, que malheureusement, il y a beaucoup d'opticiens ou de photographes qui proposent du matériel astronomique, mais ils ne connaissent pas du tout l'observation astronomique et ils ne sont pas de bons conseils. Il est important d'aller dans des boutiques spécialisées comme celle de Joël. Il n'y en a pas tant que ça en France. Et effectivement, il faut surtout éviter les petits instruments pas chers. Par exemple, à Noël, on se rapproche de la période des fêtes, où on a tendance à acheter des espèces de jouets, des petites lunettes aux enfants. Et c'est pratiquement le meilleur moyen pour les dégoûter de l'observation du ciel, parce qu'un mauvais instrument, c'est très difficile à utiliser, ça montre pas grand-chose. Il faut vraiment, quand on veut acheter du matériel, investir dans des bons instruments avec de bons conseils.
Allez, merci Michel pour ce complément. Michel, on se retrouve juste après la chronique culinaire. Merci encore donc à Joël Vallée et Christine Castéran. Michel, on se retrouve juste après la chronique. Voilà la chronique du bonheur dans l'assiette, hein, que le nom fait rêver. Et aujourd'hui, sur cette deuxième chronique, il y en aura 8 en tout. On va nous parler de chronobiologie nutritionnelle. Tout est dit dans cette chronique et on repartagera quelques infos, bien sûr, sur les réseaux sociaux.
Silver Fourchette, en partenariat avec Odo Radio, la CARSAT Aquitaine vous propose 8 chroniques et une émission radio sur l'alimentation des seniors aidants intitulée « Du bonheur dans l'assiette ». À bientôt pour « Du bonheur dans l'assiette » avec Silver Fourchette.
Voilà, merci à toute l'équipe, bien sûr. J'ai repartagé sur les réseaux sociaux qui a participé à ces magnifiques chroniques. Voilà, il y en aura 8 en tout. Et là, vous avez pu suivre la deuxième chronobiologie nutritionnelle. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, on est toujours en direct. C'est notre journal ici à Odo Radio, ce mercredi 28 septembre. Donc, on a un petit peu changé le protocole avec Michel.
Mais de toute façon, entre astronomie et gastronomie, il n'y a qu'une lettre de différence. Voilà, et d'expérience, souvent, les astronomes sont des bons vivants. Bon. Et d'ailleurs, pour prendre un exemple un peu prestigieux, Galilée lui-même disait « Le soleil qui gouverne l'orbite de toutes les planètes prend le temps de faire mûrir les grappes de raisin pour le vin, bien sûr. »
Très bien. Voilà, j'étais tout oué, Michel. Je ne m'attendais pas à ce moment-là. En tout cas, Michel, du coup, voilà, donc on change le protocole. Donc, vous avez pu dire quelques mots. Ça faisait partie intégrante de votre chronique astro. Mais comme c'était collé à l'actu de jour de la nuit, le 15 octobre, la fête de la science, c'était bien de pouvoir la présenter, cette partie-là, avec nos invités qu'on salue à nouveau, Joël Vallée d'Astronomie Gironde 33 et Christine Castéran, secrétaire de la SAB, Société Astronomique de Bordeaux. Et là également, on va rediffuser bien sûr leurs infos, les réseaux sociaux. Ça sert à ça. Donc, du coup, on revient à votre chronique astro, Michel, et vous allez nous parler de l'actu. Alors, la sonde, je ne sais pas s'il faut prononcer DART. Chaque lettre, DART, c'est vrai parce que des fois on n'ose pas, et puis même des journalistes le prononcent de différentes manières. Mais là, si vous me dites qu'il faut dire DART, je vous crois volontiers, Michel. Donc, tout de suite, eh bien, vous allez nous en dire quelques mots parce que l'actualité, c'est cette sonde qui a percuté un petit astéroïde.
Voilà, comme nos auditeurs ont pu l'entendre dans les médias, hein, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours, l'événement s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi vers 1h15 du matin et on a pu le suivre en direct sur le site de la NASA car la sonde renvoyait vers la Terre une photo toutes les secondes pendant toute son approche jusqu'au crash final où la communication s'est brusquement interrompue comme prévu. Si on veut être rigoureux, ce n'était pas exactement du direct car vu la distance à la Terre, les images nous parvenaient avec environ 40 secondes de retard. À la fin, on voit le petit astéroïde Dimorphos grandir très vite, car on s'en approche à 6 km/s, soit dans les 23 000 km/h, et sa surface se révèle très irrégulière, parsemée de petits blocs rocheux, avec des détails de l'ordre de 10 cm sur les dernières photos. On n'a jamais vu un astéroïde d'aussi près, pratiquement. Confirmant qu'il s'agit sans doute d'un agrégat de petits rochers, comme un tas de cailloux, si l'on peut dire, plutôt qu'un gros roc massif. Cela semble être le cas de la plupart des petits astéroïdes approchés par des sondes spatiales, comme Ryugu, d'environ 1 km, où la mission japonaise Hayabusa 2 a prélevé des échantillons en 2019 pour les rapporter sur Terre en décembre 2020, et Bennu, de 500 mètres environ, où la mission américaine Osiris-Rex a pris des échantillons en octobre 2020 et devrait nous les livrer dans un an, en septembre 2023. Dimorphos est un astéroïde encore plus petit, d'environ 160 mètres, soit environ la moitié de la tour Eiffel, qui a la particularité d'être en orbite autour d'un astéroïde un peu plus gros, Didymos, d'environ 800 mètres, qui lui est un Apollon géocroiseur, c'est-à-dire que son orbite croise périodiquement celle de la Terre. C'est en raison de cette configuration particulière que ce système double avait été choisi comme cible pour DART, car il n'est pas trop éloigné de la Terre, environ 11 millions de kilomètres au moment de l'impact, ce qui est bien moindre que les environ 300 millions de kilomètres de la ceinture d'astéroïdes, où ils sont les plus nombreux, orbitant autour du Soleil entre les orbites de Mars et de Jupiter. De plus, entrer en collision avec le petit satellite Dimorphos ne présente aucun risque, car dans tous les cas, il restera en orbite autour de Didymos, qui poursuivra sans modification sa trajectoire autour du Soleil, sans aucun risque pour la Terre à court terme.
Alors Michel, il y a une question qui me paraît évidente. Quel est l'intérêt alors d'aller percuter un petit astéroïde s'il ne menace pas la Terre ?
Alors d'une certaine manière, il s'agit d'une démonstration technologique, comme le dit la NASA, ou si l'on veut être un peu plus positif, d'une répétition générale au cas où un astéroïde menacerait réellement d'entrer en collision avec la Terre. L'agence spatiale américaine emploie d'ailleurs souvent l'expression « défense planétaire » pour qualifier ce type de mission. En effet, depuis qu'on explore la population des astéroïdes, dont le premier Cérès a été découvert en 1801, on constate que ces petits objets du système solaire, ce qui reste relatif, hein, car Cérès fait quand même dans les 1000 km de diamètre, donc ces astéroïdes sont très nombreux. Aujourd'hui, on estime qu'il doit y en avoir entre 700 000 et 1 700 000 d'une taille supérieure à 1 km dans la ceinture entre Mars et Jupiter. Mais à côté, il y en a d'autres qui ont des trajectoires plus elliptiques, les amenant à croiser l'orbite des planètes, les géocroiseurs pour la Terre, dont environ 1200 connus actuellement, mais cette population monte à environ 20 000 si on rajoute les astéroïdes qui s'approchent assez près de l'orbite terrestre et pourraient devenir géocroiseurs si leur trajectoire était perturbée par un autre corps. Il faut savoir que les mouvements des corps du système solaire sont difficiles à prévoir à très long terme en raison des très nombreuses interactions réciproques, et notamment l'influence des planètes géantes comme Jupiter. On connaissait le risque potentiel que représentait une telle collision et les conséquences que cela pouvait entraîner pour notre planète, ne serait-ce qu'en observant les nombreux cratères d'impact criblant la surface de la Lune, quelques-uns sur la Terre, comme le météore cratère en Arizona, ou la disparition des dinosaures il y a environ 65 millions d'années suite à la chute d'un astéroïde de 10 km dans la région du Mexique actuel, ou plus près de nous, la gigantesque explosion de 1908 au-dessus de la Tunguska en Sibérie. Mais cela restait très théorique jusqu'en 1994, où les astronomes ont pu observer la chute de fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 dans l'atmosphère de Jupiter et constater à quel point cela était dramatique, même pour une planète géante, avec des explosions visibles depuis la Terre, laissant des cicatrices, si je peux dire, persistantes pendant plusieurs jours. Cela nous a d'ailleurs valu plusieurs films catastrophes les années suivantes, Hollywood s'étant emparé de ce sujet spectaculaire, notamment en 1998 Armageddon avec Bruce Willis en sauveur de la Terre comme à son habitude, et Deep Impact avec Elijah Wood, le Frodon de la saga du Seigneur des Anneaux, et Morgan Freeman en président des États-Unis comme souvent. Donc depuis les années 90, on cherche comment nous pourrions nous protéger d'un astéroïde qui menacerait la Terre, du moins si on le découvre assez tôt, des mois avant la collision, car on ne peut rien faire contre un astéroïde inconnu arrivant du côté du Soleil, donc invisible pour les télescopes, et qui nous frapperait quelques minutes seulement après être devenu visible dans le ciel. En disposant de suffisamment de temps, on pourrait envoyer une mission spatiale à sa rencontre, mais pas pour le faire exploser avec une bombe nucléaire, comme on le voit dans certains films, car cela ne ferait qu'empirer la situation en créant une multitude de petits débris qui provoqueraient un véritable bombardement à la surface de la Terre. Non, il suffit simplement de le dévier légèrement pour qu'il frôle la Terre au lieu de la percuter, et parmi les différentes techniques envisagées, la plus simple consiste à faire se cracher une petite sonde à sa surface. Même si la pitch net peut paraître dérisoire, par exemple DART, de la taille d'une petite voiture et d'une masse de seulement 550 kg contre Dimorphos de 167 mètres, dont on peut estimer la masse à 2 millions de tonnes s'il a une densité comparable à celle mesurée de Ryugu, ce qui ressemble un peu à une petite souris s'écrasant sur un éléphant, ce choc provoque quand même une légère déviation, suffisante pour épargner la Terre si elle se produit des semaines ou des mois avant la collision prévue.
Alors, est-ce que l'expérience a été un succès, Michel ?
Alors, c'est malheureusement trop tôt pour le dire. Comme j'ai déjà expliqué souvent ici, il faut savoir être patient avec les missions spatiales. DART, qui veut dire Double Asteroid Redirection Test, soit en français test de redirection d'un astéroïde double, est une mission conjointe de la NASA avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, décidée en 2013. Conçue et construite entre 2017 et 2021, lancé le 24 novembre 2021 avec un Falcon 9 de SpaceX, et il lui a fallu presque 10 mois pour rejoindre sa cible. Avec les images reçues en direct ou presque la nuit de lundi, on sait que l'impact a bien eu lieu, ce qui est un exploit, car le délai de communication avec la sonde rendait impossible de la téléguider depuis la Terre. Elle a donc dû se diriger seule en interprétant les images prises par sa caméra pour reconnaître son objectif alors qu'on n'avait aucune idée de sa forme et effectuer les manœuvres de correction de trajectoire en autonomie pendant les 4 dernières heures, tout cela piloté par un logiciel basé SmartNav, hein, navigation intelligente si on peut traduire en français. Pour savoir quels ont été les résultats de cet impact, il y aura 3 étapes à différentes échéances. On devrait bientôt récupérer les images fournies par l'ICIA Cube, un CubeSat, c'est-à-dire un minuscule satellite d'environ la taille d'une boîte à chaussures, développé par l'ASI, l'agence spatiale italienne, qui était incorporé à DART pour tout le voyage avant d'être largué 10 jours avant l'impact. Son objectif était de s'écarter de la sonde pour photographier l'impact et ses conséquences durant les 3 jours suivants, le cratère, qui peut avoir des profils différents selon la consistance de l'astéroïde, et les débris éjectés. Dans un deuxième temps, sans doute dès la semaine prochaine, des télescopes terrestres pourront mesurer le résultat de l'impact sur la trajectoire de l'astéroïde. Observé depuis des années, on connaît très bien la période de révolution de Dimorphos autour de Didymos, qui est d'environ une demi-journée. Si on veut être précis, c'est 11h55. Depuis la Terre, il est impossible de distinguer les deux petits astéroïdes qui ne forment qu'un point lumineux mobile au milieu des étoiles, mais cette mesure est possible en étudiant les variations de luminosité de l'ensemble. Le principe est le suivant. Quand le petit satellite passe devant l'astéroïde principal, la lumière solaire qu'il nous renvoie est un peu plus faible que quand ils ne sont pas superposés, donc avec une surface réfléchissante un peu plus grande. En réalité, c'est un peu plus compliqué car la rotation des deux corps, aux surfaces irrégulières, introduit aussi des variations de luminosité. DART étant venu percuter Dimorphos de face, c'est-à-dire dans le sens inverse de sa révolution, a dû le ralentir un peu, provoquant une légère chute vers une orbite plus petite, donc une période de révolution légèrement différente qui sera mesurée les prochains jours par quatre grands télescopes, deux aux États-Unis et deux au Chili. Cette mesure donnera une indication très précise du résultat de l'impact sur la trajectoire de l'astéroïde. Enfin, une mission complémentaire à DART, baptisée ERA de l'ESA, doit être lancée en octobre 2024 de Kourou par une fusée Ariane 6 pour rejoindre le système de Didymos en décembre 2028 et rester 6 mois à l'observer pour constater sur place les conséquences de l'impact sur l'astéroïde.
Alors en attendant, où en est le lancement de la mission lunaire Artemis One, en français bien sûr?
Oui, alors comme j'en avais longuement parlé lors de la dernière chronique, Artemis 1 est la première mission du nouveau programme lunaire de la NASA qui va expérimenter de nombreuses étapes inédites. Premier tir du lanceur lourd SLS, premier envoi de la capsule Orion jusqu'en orbite autour de la Lune et première rentrée atmosphérique en utilisant la technique du rebond et un bouclier thermique jamais testé auparavant. Avec les risques qu'elle comporte, c'est donc une mission sans équipage à bord, les astronautes étant remplacés par des mannequins bardés de capteurs. Pour un tel tir, les conditions idéales, en fonction notamment des positions relatives Terre-Lune, ne sont réunies qu'à des dates et pendant des plages horaires bien précises. La première tentative était programmée pour le 29 août, mais elle a échoué en raison d'un problème de capteur de température sur un moteur. Pour profiter de la même fenêtre de tir, la NASA l'avait reportée au 2 septembre, mais elle a encore échoué, cette fois en raison d'une fuite d'un tuyau apportant l'hydrogène liquide dans le réservoir du premier étage. Il fallait donc la reporter à la période favorable suivante, qui s'ouvrait le 19 septembre. La NASA étant confrontée à un dilemme, entre effectuer la réparation directement sur le pas de tir, ce qui permettait de la tester en essayant un remplissage partiel du réservoir, ou ramener la fusée dans son bâtiment d'assemblage, le VAB, situé à 6 km de là, ce qui ne permettrait pas de la ramener à temps pour profiter de la fenêtre de tir de septembre et obligerait à reporter le lancement à celle d'octobre. Cette opération pouvait d'ailleurs être rendue obligatoire par l'homologation de 25 jours des batteries alimentant le dispositif d'autodestruction de la fusée au cas où elle dévierait de sa trajectoire en menaçant des régions peuplées, délai qui allait être dépassé. Finalement, la NASA a obtenu la prolongation de cette échéance par l'administration compétente, a réparé la fuite et testé le remplissage le 21 septembre, ce qui aurait permis de lancer Artemis 1 le 23, vendredi dernier. Malheureusement, cette fois, c'est la météo qui s'en est mêlée avec l'approche de la tempête tropicale Yann, aujourd'hui requalifiée même en cyclone de catégorie 3. C'est lundi qu'au vu des prévisions allant en se dégradant, qu'il a été décidé de renoncer au tir et de ramener la fusée à l'abri. Ce transfert que la NASA aurait préféré éviter en raison d'éventuels dommages que peuvent produire les vibrations pendant le transport, même s'il s'effectue à très petite vitesse, a commencé dans la nuit de lundi à mardi et la fusée est à l'abri depuis hier, avant que le cyclone ne touche la base de Cap Canaveral ce mercredi. Si aucune autre péripétie ne vient contrarier les opérations, elle devrait être ramenée sur son pas de tir début octobre pour un lancement pendant la prochaine période favorable qui va du 17 au 30 octobre. On en reparlera donc certainement lors de la prochaine chronique Astro, en principe le mercredi 26.
Allez, toujours avec Michel Favré, vous êtes sur Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, et Michel va nous parler de la deuxième partie de sa chronique, du ciel du mois.
Alors oui et non, parce que pour laisser le temps de parler des rendez-vous astro de début octobre avec nos invités, je ne parlerai pas en détail du ciel du mois d'octobre et je renvoie nos éditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web www.constellations et galaxies pour voir les cartes du ciel correspondantes et avoir les informations détaillées. Je la mettrai à jour pour octobre d'ici ce week-end. Je peux juste indiquer rapidement qu'en raison du raccourcissement des jours, on vient de passer l'équinoxe d'automne le 23 septembre, la configuration du ciel change assez peu en début de nuit, partagée entre le ciel d'été au sud et vers l'ouest et le ciel d'automne vers l'est, prenant une part de plus en plus prépondérante au fil du mois. À noter que la nuit surviendra beaucoup plus tôt en fin de mois, car le 30 octobre, nous repasserons à l'heure d'hiver. On peut toujours observer les planètes Saturne et la très brillante Jupiter dès le début de nuit, suivie de Mars un peu plus tard. Je dois juste signaler un événement notable ce mois, avec une éclipse partielle le mardi 25. la Lune occultant le disque solaire entre 11h25 et 12h40 à environ 10% au moment du maximum vers midi. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup à une éclipse qui a eu lieu l'année dernière, je crois que c'était au mois de juin, à peu près aussi vers midi et d'environ 10%.
Voilà, donc sur la chronique, il y avait une troisième partie, mais c'est ce que vous avez dit au début, Michel, pour accueillir nos invités. Donc là, si une petite conclusion, si vous voulez, Michel, et qu'on en reste là.
Ben, je vais juste compléter un tout petit peu sur l'éclipse. Je rappelle que il ne faut jamais regarder le soleil directement à l'œil pendant une période prolongée. Donc c'est quelque chose qu'on a tendance à vouloir faire pendant une éclipse, et il faut obligatoirement se munir de protection spéciale, hein, en ce qu'on appelle généralement les lunettes à éclipse, mais il y a d'autres dispositifs qui existent. Et bien sûr, encore moins avec des jumelles, une lunette ou un télescope, parce que comme ça concentre beaucoup plus l'intensité lumineuse, on peut carrément, enfin c'est le risque, brûler sa rétine. On ne sent rien parce qu'il n'y a pas de capteur de douleur dans la rétine, et pourtant ça peut nous rendre aveugles. Donc surtout, ne braquez aucun instrument en direction du soleil. Et pour observer l'éclipse, il faut se munir de dispositifs spéciaux éclipse.
Allez, merci Michel. On rappelle, voilà, ça a été en deux parties la chronique, mais ça permet à la fois d'être en phase avec l'actualité. C'est pour ça qu'on vous remercie bien sûr Michel. Et on rappelle, hein, constellationsgalaxies.org, on peut retrouver toutes les chroniques. Cette numéro 411 a trouvé lieu et place. Grand merci à vous, d'autant que c'est vous qui avez organisé le plateau avec nos invités du jour, qu'on remercie également. Joël Vallée d'Astronomie Gironde 33 et Christine Casséran, secrétaire à Castéran, que j'écorche pas son nom, pardon Christine, Castéran, secrétaire de la SAB, la Société Astronomique de Bordeaux. On va remettre toutes les infos sur les réseaux sociaux pour justement avoir des liens concernant ces assos et ce qu'ils organisent pour la fête de la science et pour certaines également au jour de la nuit, le samedi 15 octobre. Allez, merci à eux.